J'ai réduit totalement ces
situations. Et de vous voyez, on fait l'engage, on peut, en combinant les deux, de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro des Paroles aux Auditeurs, votre espace d'échange et de partage sur les grandes questions d'actualité et les préoccupations de tous les jours. C'est jeudi 28 octobre 2010, notre échange va tourner autour des inquiétudes exprimées par les opérateurs économiques affiliés à la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Ces opérateurs économiques s'adressant il y a quelques jours au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur ont dénoncé ce qu'ils qualifient des taxes multiples leur imposées par les gouvernements provinciaux. Et toujours selon eux, ces taxes sont perçues au niveau du gouvernement central. Cette situation a comme conséquence l'augmentation des prix des produits de première nécessité sur le marché. De leur côté, les gouverneurs des provinces rejettent ces allégations et estiment que ces taxes sont instituées sur base de la libre administration des provinces. Notons par ailleurs que pour aider à décanter la situation, le premier ministre Adolphe Mozito a pris d'ailleurs mercredi une réunion technique à laquelle ont participé les délégués de la FEC, le ministre de l'économie nationale ainsi que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il a été rappelé au cours de cette réunion que la nomenclature des taxes en rapport avec les nouvelles ordres institutionnels qui a déjà fait l'objet de plusieurs discussions devra suivre un processus législatif normal. Et le ministre de l'économie nationale qui s'adressait aux journalistes a précisé qu'en attendant la mise en œuvre de cette nomenclature, seuls les taxes reconnues au terme de la loi sont imposables aux opérateurs économiques. Quant à celles imposées par les provinces à travers leurs débits, elles devront rester en veilleuse. Et le premier ministre Adolphe Mozito a annoncé par ailleurs la tenue d'une autre réunion qui regroupera cette fois le gouvernement central, le gouverneur des provinces ainsi que les opérateurs économiques afin que les choses soient définitivement fixées. Une seule question pour l'émission, comment réagissez-vous à cette situation des compétences entre les institutions provinciales et nationales? Vos réactions, point de vue et propositions sont les bienvenues. Nous avons au téléphone le professeur Mboué Boakalala, il entoure les sciences politiques et auteur d'un livre sur le fonctionnement des institutions politiques de la RDC des origines à nos jours. Cette émission réalisée par Cynthia Bachizi sous la supervision de Nicole Ngatia et Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Pour informer les gens directs ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Dans un dossier rapporté par la FEC au vice-ministre de l'Intérieur, nous pouvons noter qu'il y a des cas spécifiques. Par exemple, c'est la création des taxes à l'embarquement, des taxes sur les produits des grandes consommations au Bas-Congo et à Kinshasa, des taxes sur les produits pétroliers au Nord-Kivu et au Kasai-Occidental. Dans ces deux dernières provinces, les édits adoptés par les assemblées provinciales et recopient tout simplement les taxes de la DGRAD déjà perçues au niveau national selon la FEC. Et à l'Équateur, cependant, il s'agit d'une taxe spécifique sur la superficie forestière et perçu au niveau national. Alors là, il se pose un problème de responsabilité et de compétences au niveau provincial et au niveau national en ce qui concerne les taxes à impôts et les gouverneurs de province. C'est basé bien sûr sur plusieurs textes juridiques que nous aurons à évoquer au cours de cette émission qui fixent les responsabilités et les compétences de province en matière des taxes à percevoir et ce qui doit en principe revenir au gouvernement central et aussi ce qui peut être géré d'une manière mixte. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir pour donner votre point de vue sur cela, parce que cela touche directement à votre vie quotidienne. Quand il y a multiplicité des taxes, il y a aussi l'incidence sur les prix de denrées, des produits, des premières nécessités. Nous en parlons avec vous. Appelez-nous au 081-899-6315 pour passer sur les antennes et donner votre point de vue, ou soit envoyez-nous un mail à pa@radiookapi.net. Professeur Mboba, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi, comme nous avons présenté à l'introduction de cette émission, on dira un peu que c'est un problème de jugement de compétences entre les institutions provinciales, ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire, mais cette fois ça touche à l'impôt, aux taxes. Les opérateurs économiques pensent que les institutions provinciales légifèrent sur les matières qui qui sont déjà réglementés par le pouvoir central et ils s'acquittent au niveau du pouvoir central. Et là, il y a un problème d'une action double hein, pour la même taxe. On paye en province, on paye aussi au gouvernement central. Mais quand on entend une information comme ça, vous, bien sûr, qui avez écrit sur les institutions provinciales de l'origine et des origines à nos jours, comment on peut expliquer cette situation?
La situation est en partie expliquée par le fait que la loi qui devrait fixer la nomenclature des autres recettes locales et la modalité de leur répartition prévue à l'article 171 de la Constitution traîne et que les provinces sont en difficulté de pouvoir trouver les moyens financiers dont elles ont besoin pour fonctionner. Mmh. Et donc, au niveau national, il est important que les textes qui doivent harmoniser tout cela soient pris rapidement. Or, malheureusement, au niveau du pouvoir central, n'est-ce pas, on ne prend pas l'avance. Mmh. Ce qui fait que les provinces finissent par élaborer des édits qui leur donnent les moyens de leur politique. Malheureusement, on peut trouver dans certains de ces édits qu'il y a parfois n'est-ce pas, des matières qui vont au-delà de ce que l'on pouvait attendre de leur part. Mais comment les reprocher dès lors qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, les cadres de base? Parce que si au niveau national, on a élaboré cette loi-là qui fixerait la nomenclature des recettes locales et la modalité de leur répartition, prévue à l'article 175 de la Constitution, je crois que on éviterait ce genre de problèmes. Mais du moment que ce sont des édits qui ont été élaborés par les assemblées provinciales, il me semble qu'on ne peut pas reprocher, n'est-ce pas, les gouverneurs de les appliquer. Peut-être qu'il faut casser certaines dispositions de tel ou tel édit, mais dire simplement que c'est illégal comme ça dans l'ensemble, ça me paraît difficile à faire avaler chez les gouverneurs de province.
Parce que quand on regarde les matières, bien sûr, hein, si on prend l'article 204, alinéa 16 de la Constitution, on rappelle les matières qui relèvent de la compétence exclusive des provinces, à savoir les impôts, les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur les véhicules automoteurs. Et même quand on regarde l'article, je crois bien, c'est l'article 43. Voilà.
52, oui.
Voilà. Et quand on regarde aussi, par exemple, l'article 47 de la loi qui portant libre administration des provinces, on dit bien que l'impôt est établi conformément à la législation fiscale provinciale. Et l'article 49 poursuit ceci, les taxes, les droits provinciaux et locaux compris notamment les taxes d'intérêt commun, les taxes spécifiques à chaque province et les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de la compétence de la province. Et déjà, c'est ça, c'est déjà une base qui permet déjà aux institutions provinciales de pouvoir se succès quand même et sortir ces édits pour le permettre un peu, en fait, de fonctionner aussi longtemps qu'il ne touche pas encore le 40% recommandé aussi dans la Constitution.
Voilà, donc c'est ça, il y a une base légale. Hein. Mm-hmm. Donc avec les dispositions que vous venez très bien de relever, il est clair que les provinces vont fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a la grande difficulté d'interprétation de nos textes. Mm-hmm. Il y a un peu la difficulté parce que les provinces aussi sont voulues acteurs du développement. Mm-hmm. Et les provinces ne peuvent pas assumer leurs responsabilités en matière de développement et toutes ces compétences qu'on leur a confiées si elles n'ont pas des moyens financiers. Mm-hmm. Donc le pouvoir central doit harmoniser les choses, doit prendre un peu de l'avance dans ce domaine-là pour que nous évitions les conflits et que les citoyens et les opérateurs économiques ne deviennent pas victimes de ces manques d'harmonisation des textes. Sinon, les provinces, à mon avis, sont en droit de chercher aussi les moyens, n'est-ce pas, de fonctionnement. Et puis, vous savez, les élections arrivent l'année prochaine, tous ces gouverneurs, tous ces gouvernements provinciaux ont besoin de résultats. Et ces résultats, ils ne vont pas les avoir s'ils n'ont pas de l'argent, s'ils n'ont pas des moyens financiers. Et donc, le pouvoir central ne peut pas simplement dire aux provinces, voilà, vous êtes allé au-delà, à supprimer les édits ou les suspendre de cette manière-là. Normalement, ces édits-là
quand bien même il serait en conflit avec certaines dispositions des lois, je crois que c'est la Cour suprême, les pouvoirs judiciaires, qui est habilité à statuer sur ces questions-là. Hein.
Voilà, on pourra revenir à vous, professeur Mbeboa, parce qu'il y a aussi en ligne le député national Bahati Lukwebo qui nous appelle de Kinshasa, qui va donner son point de vue, Robert Etamatadi. On va leur donner la parole tout de suite après.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Monsieur Bahati Lukwebo, vous êtes député national, bonjour.
Bonjour.
Nous partageons avec les auditeurs de Radio Okapi, hein, ce sont les inquiétudes exprimées par la Fédération des entreprises du Congo, hein, accusant les provinces de multiplier les taxes et estimant que ces taxes ne cadrent pas avec la Constitution. Les provinces estiment que non, c'est au nom de la décentralisation, au nom de la loi sur la libre administration des provinces et tous les autres textes juridiques, les textes sont légaux. On dirait un peu une situation de compétences entre les uns et les autres, mais quand même, on a besoin d'y voir clair, de mettre de l'ordre pour que les opérateurs économiques se retrouvent, les institutions provinciales se retrouvent. Vous êtes député national. À quel niveau se situe le problème dans cette matière, monsieur Bahati Lukwebo?
Bon, d'abord, il faut savoir que c'est une matière hautement sensible dans la mesure où chaque parti cherche à tirer la couverture de son côté. Les opérateurs économiques cherchent à protéger leurs avantages, les gestionnaires des provinces cherchent à maximiser les recettes pour répondre aux exigences de la population, et donc là on est en face de deux forces qui se contredisent sur un point donné. Et je crois que lorsqu'il y a des contradictions, il n'y a que la loi qui peut trancher. Et cette loi, c'est la nomenclature qui est prévue à l'article 165 de la Constitution. Il faut que toutes les affaires se fassent, le gouvernement introduise un projet de loi portant révision de la nomenclature des taxes et leur mode de répartition. Je voudrais ajouter ceci, qu'il y a quelque part la responsabilité du gouvernement central qui, en fait, dans la répartition du budget, démontre que il n'y a pas de sens de solidarité, il n'y a pas de sens de justice et d'équité. J'ai à le dire à d'autres occasions qu'il est possible de doter les provinces des moyens suffisants pour leur développement. Et j'ai donné un petit exemple banal. Si nous avons un budget de 7 milliards de dollars, mais qu'est-ce qu'il empêche sincèrement qu'on puisse débloquer 1 milliard 100 millions à raison de 100 millions de dollars par province pour que ces provinces-là puisse répondre aux exigences de la voirie urbaine, de la santé, de l'éducation, de l'eau et de l'électricité, de la sécurité. Je crois que avec 100 millions de dollars, si vous donnez aux banques de 100 millions de dollars, mes chers frères et sœurs, on peut facilement asphalter toute la voirie de Bandundu-Ville et même à Kikwit. On peut facilement répondre aux problèmes d'eau et d'électricité. Au jour d'aujourd'hui, il existe des technologies qui permettent à ce que même celui qui est dans le désert, si vous avez vos 20 millions, vos 30 millions de dollars, on vous donne l'eau et l'électricité. Donc si les moyens sont là, nos provinces peuvent avoir l'eau et l'électricité, nos provinces peuvent avoir des médicaments et des équipements médicaux, nos provinces peuvent avoir des écoles bien équipées avec seulement 100 millions de dollars. Donc quelque part, il y a une mauvaise foi. Et quand vous prenez 1 milliard, 100 millions, sur 7 milliards, il reste quand même presque 6 milliards que le gouvernement peut gérer maintenant en procédant à des rétrocessions selon la clé de production, de la démographie, et aussi faire face aux autres exigences de l'État central, notamment la justice, l'armée, la police, la dette, ainsi de suite. Donc, quelque part, de la magie des chiffres. Moi, je considère qu'il y a un problème de solidarité, un problème de justice et d'équité.
Voilà.
Monsieur le député, de deux fois.
Oui, monsieur Bahati, oui. Monsieur Bahati,
on tirait la couverture de son côté.
Voilà.
Alors, au jour d'aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner, c'est de demander que, primo, la loi sur la nomenclature soit prise. Et que cette fois-ci, on puisse prévoir dans cette nomenclature une allocation spéciale à toutes les provinces. Donc, dès qu'on a le budget, on décrète, on dit, bon voilà, ne fût-ce que d'abord un forfait de 100 millions pour chaque province. qui t'a maintenant ajouté selon la production, la démographie.
Mmh.
Deuxièmement, voilà. Mmh. Il faut régler ce problème des taxes. Parce qu'une taxe doit avoir une contrepartie. Il ne faut pas qu'on crée des taxes en les confondant avec les impôts. Et il faut éviter une double facturation. Donc, lorsqu'on a rendu un service et qu'il y a une taxe correspondante, si elle est déjà perçue au niveau provincial, il ne faut pas qu'elle soit perçue
au niveau national,
national mm-hmm. par la suite.
Voilà. Et là, monsieur.
Je me résume en disant que, quelque part, il y a la responsabilité du gouvernement central.
Mm-hmm.
La Constitution l'autorise à ce que, lorsqu'une loi est urgente, le gouvernement peut saisir toutes les affaires que centre le Parlement pour que cette loi passe en priorité. Et je crois que ça, c'est une loi prioritaire parce qu'elle porte sur la vie des citoyens. Lorsque les opérateurs économiques cherchent à protéger leurs intérêts, en fait, ils cherchent à protéger les intérêts des consommateurs.
Mmh.
Parce qu'en fin de compte, c'est nous, les consommateurs, qui payons le pot cassé. Mmh. Donc, nous prenons en charge la faute qui revient au gouvernement central.
Oui, monsieur le député, mais on sait aussi qu'on peut procéder par une proposition au niveau de l'Assemblée. Un député peut endosser. N'est-ce pas, si vous vous rendez compte qu'au niveau du gouvernement central, ça traîne pour les projets, mais on peut aussi avoir une proposition pour que cela marche. Parce qu'enfin, maintenant, là, le gouvernement a demandé des sursoirs, de mettre en veilleuse les édits provinciaux, mais pourtant, ces provinces doivent fonctionner, elles doivent contribuer au budget de l'État sur base de ces taxes et autres redevances qu'ils étaient en train de percevoir. Et alors, comment là on va les aider parce que ça devient un besoin en présence?
Une proposition, on peut la faire, mais est-ce que vous savez combien de propositions dorment dans les tiroirs de l'Assemblée nationale et du Sénat? Il y en a beaucoup. Parce que pourquoi je préfère que ça vienne du gouvernement? D'abord, la maîtrise de la matière. La matière est quand même hautement technique et nous ne gérons pas l'administration du territoire, nous ne gérons pas les entités. Deuxièmement, la Constitution donne au gouvernement cette priorité-là. C'est-à-dire, si le gouvernement déclare que cette loi est prioritaire, suivant la Constitution, on doit l'examiner en priorité. Mais
voilà.
Une proposition, même si vous parlez très fort, vous ne pouvez pas faire passer votre proposition en priorité.
Merci.
Alors, pourquoi je me dis que c'est le gouvernement qui devrait le faire. Et je crois que toutes les pressions doivent être exercées sur le gouvernement.
Merci.
Pour que le gouvernement présente ce projet de loi. Mais, j'insiste, ce n'est pas là une occasion pour que les provinces puissent prendre des décisions qui vont au-delà de leurs compétences. Tout à fait, ce serait de l'anarchie, et je ne suis pas pour l'anarchie, vous me connaissez assez, je suis un homme d'ordre, et donc je plaide pour le province, mais je ne plaide pas pour l'anarchie.
Merci, monsieur Bahati Kobo, merci de votre temps que vous nous avez accordé, votre point de vue dans cette émission. Vous avez d'ailleurs rejoint le professeur Mbobo qui pense que le grand problème réside au niveau de cette loi sur la nomenclature. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Nous allons à Matadi. Robert, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons de ce qu'il faut faire enfin, parce qu'il faut que les institutions provinciales puissent fonctionner, mais leur fonctionnement, il ne faut pas qu'il soit perçu par les consommateurs, par les opérateurs économiques, comme un équipement pour leurs affaires. Et vous êtes à Matadi. Quel est votre point de vue eu égard à cette situation?
Ben, je voudrais dire d'abord qu'il faut déplorer le fait que depuis la création des gouvernements provinciaux à la faveur de la Constitution en 2006, la nomenclature des taxes n'a pas été révisée et adaptée à la configuration politique axée sur la décentralisation.
Mmh.
Les gouvernements provinciaux ont en fait hérité de cette Constitution des compétences dites exclusives. Mais la plupart de ces tas de taxes liées à ces compétences exclusives sont toujours des ressorts du gouvernement central. Ce qui a créé, cela a créé un déséquilibre dans le budget général de recettes des gouvernements provinciaux, et aujourd'hui dominé à 93% par la rétrocession. Ça, il faut qu'on le sache. Moi, je suis au Bas-Congo, je suis au gouvernement provincial, et je vous dis que le gouvernement, le budget général des recettes de nos provinces, pour le Bas-Congo par exemple, est dominé à 93% par la rétrocession. Or, cette rétrocession demeure toujours un leurre. Le gouvernement qui s'impose pour nous faire une rétrocession, de fait, n'arrive même pas à respecter sa propre parole. Je vous donne quelques chiffres pour que les gens comprennent. Clairement, en 2008, par exemple, le gouvernement central devait rétrocéder à la province du Bas-Congo 40 milliards. Et sur les 40 milliards, à peine 18 ont été rétrocédés. Et en 2009, sur les 55 milliards, à peine 16 milliards ont été rétrocédés. Congolais, bien sûr. Et en 2010, où nous sommes, sur les 90 milliards qui est prévu par le gouvernement central, n'est-ce pas, moins de 15, aujourd'hui, nous sommes déjà à la fin du mois d'octobre, moins de 15 milliards sur les 90 milliards sont rétrocédés. Donc, quand je vous dis que cette rétrocession constitue en fait 93% du budget général des recettes de nos provinces, vous comprenez dans quelle situation se trouve la province. Donc, on est constamment en besoin, en manque constant d'argent parce que écoutez, la rétrocession vient à compte-goutte quand elle veut. On vous promet 2 milliards de dollars la semaine prochaine, vous attendrez encore 3 semaines, 4 semaines, il n'y a rien. Alors, c'est ainsi que le gouvernement, prend pour sauver la face, créer des taxes qui ne sont pas des taxes parallèles. Pour le cas de Baron, par exemple, si nous parlons de la taxe de débarquement et embarquement de marchandises qui fait état d'huile aujourd'hui, ce sont des taxes qui ne sont considérées pas en fait un double emploi. Ce sont des taxes parafiscales qui ne sont pas forcément, qui ne doivent pas avoir forcément une contrepartie claire. Parce qu'on sait très bien que les taxes ont parfois des contreparties visibles et invisibles. Alors, ce qui fait que, puisqu'ils n'ont pas d'argent, puisque le gouvernement ne rétrocède pas tel que, et il prévoit lui-même, et ça crée un besoin d'argent qu'il faut avoir pour gérer les provinces.
Voilà.
Proposons, puisque nous devons proposer, la première solution, c'est effectivement c'est que le gouvernement rétrocède ce qu'il a prévu. Ça, c'est facile parce que c'est de l'argent frais, de l'argent qui est mobilisé par les provinces.
Mm-hmm.
Toutes ces taxes à caractère national sont mobilisées par les provinces. Ce n'est pas le ministère des Finances qui vient en province pour mobiliser l'argent qui rentre à la DGRAC. Ou à l'OSALESIA, c'est toujours les provinces à travers les divisions provinciales. Génératrices de recettes qui mobilisent. Donc, ce sont les provinces, ce sont le gouvernement de province qui font que cet argent rentre dans les caisses du gouvernement central. Alors, la première des choses, c'est qu'on respecte, n'est-ce pas, les chiffres qu'on donne. Quand on dit qu'on va rétrocéder 55 milliards à la province du Bas-Congo ou les autres, qu'on les fasse, et non 20% ou 10% de ce qui était prévu, parce que c'est des terribles choses. Deuxièmement, il faut absolument que la nomenclature des taxes soit revue. J'étais au Parlement avec M. Lukwebo en transition. Nous avons revu en 2004 cette nomenclature pour l'adapter à la transition. Donc il fallait que ceux qui sont au Parlement, il ne faut pas qu'ils aient toujours la balle au
gouvernement.
Oui, ils ont le pouvoir de légiférer parce que la Constitution le prévoit. Alors c'est un aveu d'impuissance de dire, écoutez, les propositions de loi foisonnent dans les toits, etc. Et ça, c'est une aveu de puissance pour dire que le Parlement ne fait pas bien son travail. Donc il faut absolument que cette loi puisse être votée dans toute urgence. Ça fait 3 ans, 4 années qu'elle devait être votée pour donner le moins leur politique. Parce qu'aujourd'hui, 97%, je peux dire, des taxes reviennent toujours au gouvernement central, alors que les compétences ont été déjà réparties entre les provinces et le gouvernement central. Donc
merci
voilà,
beaucoup,
le souhait est donc rétrocéder réellement et puis revoir
la
pour permettre aux provinces de fonctionner comme il faut, sinon alors nous aurions fait une décentralisation de parades, de façades, qui n'aura rien à permettre au gouvernement, ou plutôt au pays, de se développer.
Nous avons raté
ces 4 dernières années, en tout cas, de faire un boom au niveau du développement de notre pays. Si le courage politique avait habité les gouvernements centrales, en donnant, bien entendu, aux provinces le moyen requis et tel que la Constitution l'a prévu.
Merci Robert, vous nous avez appelé de Matadi, merci pour le témoignage. En bref, il faut la rétrocession, respecter le montant et aussi agir plus rapidement pour avoir la nomenclature qui doit différencier les actions, les champs d'action des uns et des autres pour éviter l'empiètement et arriver à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Nous allons en province orientale, à Mombasa, c'est Benoît, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Mombasa ou Mombasa?
Je suis à Mombasa.
C'est Mombasa, oui, c'est Mombasa, province orientale. Voilà, Benoît, on vous écoute.
Oui, mon problème, je voulais d'abord répondre à l'invité. Qu'est-ce que je dis à l'invité? Le problème, c'est pas d'abord la taxe. Bon, pour l'autre problème, c'est la gestion. Moi, je suis commerçant, je suis en affaires. Le problème, c'est la gestion. Je vous donne un cas. Ici, en province orientale, nous, on paye la taxe de péage. Il peut seulement bouger à commande. Aller-retour, mon camion, c'est $30. Mais allez voir l'état de cette route. Le gouvernement nous a toujours dit qu'il y a 30-40%. Mais l'état, la route se trouve dans un état de délabrement très avancé. Et puis, à part ça, je vous lance autre chose. Quand on dit la taxe provinciale, pour nous, pour la province orientale, c'est une égale barrière. Nous avons des problèmes sérieux maintenant, nous les Congolais. Quand on voit par exemple en Ouganda, nous commençons à subir des tracasseries, on nous dit chez vous, on nous fracasse beaucoup. Parce que chaque fois qu'il y a péage, je peux vous dire, vous arrivez à ce qu'on appelle derrière, 3 km de Bounia, barrière, ça c'est péage. Vous arrivez à Makayanga, point de commande, barrière, péage. À Mambasa, arrivez à Bafouassende, à Lindi, à 23 km. Où est-ce que nous allons avec ces barrières? Nous allons vers la mondialisation pour décourager les résistants, réparer nos routes, nous allons payer les taxes. Et faire quelque chose avec les taxes. Il disait il faut que les taxes puissent être contreparties.
Oui, voilà. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, notre ami Benoît. Vous nous avez appelé des Mambasa en province orientale. Hein. Vous pensez que le problème n'est pas lié à n'importe. Le problème, c'est la gestion de ce que même les gens payent. Quand on paye la taxe, par exemple, sur le péage routier, il faut quand même en contrepartie que la route soit. Les conditions de praticabilité soient améliorées. Merci beaucoup. Nous allons terminer cette première série avec Roger qui nous appelle de Kalanga au Kassai Occidental. Roger, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez suivi la situation, la perte des opérateurs économiques qui pensent que les multiples taxes, c'est tout leur travail. Hein, mais nous dégageons les pistes et les solutions sur ce qu'il faut faire. Les uns pensent qu'il faut, au niveau du gouvernement central, qu'on puisse rapidement sortir cette loi sur la nomenclature et aussi respecter le contrat de la rétrocession. Ça va permettre aux provinces de mieux fonctionner et éviter de poser des actes qui sont perçus comme tracasseries par la population. Roger, on vous écoute.
Oui, merci pour la parole. Bon, j'ai apprécié ce qu'a dit le professeur Bahati, le député, et le monsieur de Mata. Ils ont bien exprimé leurs problèmes. Mais le député est dans la boîte, le gouvernement, ils sont dans la majorité. C'est le gouvernement qui ne donne pas la rétrocession. C'est la part du marché n'est pas remplie de. C'est le gouvernement, c'est un problème de chiffres. En plus, nous allons rentrer à la loi référendaire. Cette constitution que nous avons, qui dit que les provinces doivent avoir 40, 60,
oui.
Ce sont ceux qui sont au pouvoir qui ont soutenu que nous puissions voter cette constitution. Et voilà que ce sont eux qui sont incapables de remplir leur contrat, leur mandat. Le président Bahati a parlé des élections. Oui, je crois qu'il y a des mouvements étatisés. Nous, peuple congolais, nous sommes appelés à sanctionner ceux qui ont mal géré la chose publique de l'État. Nous en avons le preuve. Par exemple, les sujets que nous développons aujourd'hui, cela démontre la mal-gestion, le niveau de manque de sérieux de nos gouvernements.
Voilà. Merci. Merci, Roger. Vous pensez qu'il faut aussi revenir au respect des textes, comme par exemple l'article 154 de la loi qui porte organisation en libre administration des provinces, qui insiste sur le fait que les provinces doivent bénéficier de l'air 40% retenu à la source, après le permettre de fonctionner et éviter tout cela. Merci. Vous interpellez les uns et les autres pour le respect des textes. Merci. On va aussi redonner la parole à notre invité et tout le
monde. Merci beaucoup, monsieur.
Merci, Roger.
Parole aux auditeurs.
Au professeur Beaubois, vous avez suivi les uns et les autres. Apparemment, tout se dessine clairement que le problème, c'est au niveau de la volonté politique hein, de tous les acteurs politiques de respecter les prescrits des textes légaux qui régissent toutes les matières. Et c'est ça même la base de tous ces problèmes, professeur.
Voilà, c'est ça le grand problème. Disons. Il est important que toutes les autorités du pays, hein, en commençant par les responsables, les animateurs des différentes institutions, ils doivent comprendre que lorsqu'on parle de la RDC, ce n'est pas uniquement le pouvoir central. La RDC, c'est le pouvoir central et les provinces ainsi que les ETD. Parce qu'à tous ces niveaux, les constituants ont confié des responsabilités, des charges. Et ces charges, pour les remplir, il faut aussi qu'il y ait des moyens financiers. Et ces moyens sont prévus. Et donc, il est important que chacun joue son rôle, que tout le monde respecte l'esprit de la Constitution qui organise les pouvoirs dans notre pays, et qu'on ne pense pas que les obligations du pouvoir central sont les seules obligations qui existent dans le pays. Parce que le pouvoir central doit aider aussi les provinces à remplir correctement leurs pouvoirs et leurs obligations vis-à-vis des opérateurs, vis-à-vis des citoyens. Et les provinces ne sauront jamais être à la hauteur de leurs obligations si elles n'ont pas de moyens financiers. C'est pour cette raison qu'il est important que la loi prévue dans la Constitution
pour la nomenclature, l'article 157 de la Constitution, soit urgemment adopté. Maintenant, ça fait 3 ans, cette loi n'est pas promulguée, elle n'existe pas. Et alors, comment, à ce moment-là, le pouvoir central peut-il faire le reproche, n'est-ce pas, aux provinces, n'est-ce pas, de prendre des débits qui, parfois, n'est-ce pas, gênent le pouvoir central dans certaines de leurs dispositions, peut-être ne gênent pas le pouvoir central, mais gênent ou dérangent quelque part les opérateurs économiques, comme c'est le cas maintenant.
Mmh. Et, professeur, mais quand on regarde la situation sur terrain, parce qu'il y a quand même beaucoup d'assemblées provinciales, si on peut dire, ont déjà voté les budgets présentés par le gouvernement provincial, et là, on demande de mettre en veilleuse les édits de gouvernement provincial sur les taxes, ce qu'il faut percevoir. Quelle va être alors l'incidence de cette mesure sur la production de ces provinces et leur contribution au niveau du budget, parce qu'ils ont élaboré le budget en tenant compte des recettes qui doivent en principe venir de toutes ces édits, de toutes ces taxes, entre guillemets, et là, qu'on décide de les mettre au frigo, comment vont-ils se comporter pour par rapport à la réalisation de recettes pour leur budget?
Mais là, ouais, je pense que c'est une mesure qui va simplement créer la confusion, parce que vous savez qu'on a toujours les problèmes des cultures fiscales dans ce pays. Mmh. Hein, donc, bien sûr, il y a des édits peut-être qui peuvent avoir des dispositions qui gênent, mais il est important aussi que tous les citoyens sachent que ce sont ces moyens-là financiers qui permettent au pouvoir public de fonctionner et de répondre aux exigences de tous les citoyens, donc de répondre aux exigences de l'intérêt général, donc qui ne sont pas des exigences d'un individu, etc., mais qui concernent la vie publique de tous les citoyens. Et donc, dans ce sens-là, je pense qu'il est important que ces questions-là soient débattues dans le cadre de la conférence des gouverneurs qui est prévue, dans laquelle le Premier ministre et les chefs de l'État sont avec le gouverneur, où ils peuvent harmoniser, plutôt que de prendre une décision comme ça, où on annonce qu'on a suspendu les édits, parce qu'alors sur le terrain, ça peut créer la confusion et les provinces seront aussi en difficulté. Je crois que chaque fois qu'il y a des questions comme ça qui sont posées, il est important de recourir aux mécanismes prévus par la Constitution. Et ce mécanisme pour harmoniser les vues, c'est la conférence des gouverneurs. Donc il n'est pas bon que le Premier ministre prenne comme ça, annonce à haute voix des dispositions comme ça, parce que ça gêne les provinces, et les provinces sont sur le terrain, toutes les provinces ont créé aussi les régies pour les recouvrements, etc. Mm-hmm. Et donc ces régies-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont croiser les bras pour attendre qu'on harmonise. Je crois que c'est une question importante parce que les provinces, comme je l'ai dit, ont des obligations, doivent travailler, doivent répondre aux exigences des citoyens qui vivent en province, qui sont plus nombreux que les citoyens qui sont dans la ville de Kinshasa. Voilà. Donc il faut voir qu'il s'agit d'une question très sensible parce qu'il s'agit de finances, mais cette question sensible doit être réglée conformément à nos textes. Et donc qu'on respecte nos propres textes et que toutes les autorités aident les citoyens à respecter également ces textes, ouais, et que elles-mêmes les autorités respectent les textes qui existent et les renforcent aussi.
Voilà. Professeur, on va vous donner la parole. Nous avons en ligne Monsieur Delis Sanga. Vous êtes député national. Nous parlons dans cette émission de les inquiétudes exprimées par les opérateurs économiques qui estiment qu'au niveau des institutions provinciales, il y a beaucoup de taxes qu'ils payent et ils payent ces taxes doublement. Il y en a qui sont prévus, qui payent au niveau du gouvernement central et les provinces les obligent de les payer. Ils sont adressés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, mais hier, dans une réunion technique dirigée par le Premier ministre, il y a une mesure en attendant de mettre au frigo, si on peut utiliser le terme, les édits des gouvernements provinciaux sur les différentes taxes. Et nous, on dégage des pistes et solutions dans cette émission, parce que les provinces ont besoin de fonctionner, les provinces ont besoin de ressources financières. D'un côté, ils se plaignent qu'ils ne reçoivent pas régulièrement la retrocession comme il faut, et là, on doit suspendre en attendant les débits, mais ils ont les budgets qui ont été élaborés. Voilà autant de questions qui se posent. Et vous, vous êtes député national. Quelle est la procédure qu'on peut tout à l'heure emprunter pour aider à régler ces problèmes, ne pas gêner les opérateurs économiques, mais permettre aussi aux provinces de fonctionner, Monsieur Délice Sanga, vous avez la parole.
Merci. Merci de m'accorder la parole dans ce débat important. Ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, nous payons le prix d'une absence de politique et de vision du gouvernement dans un des domaines clés où les réformes devaient être conduites et bien maîtrisées. Dès le départ, le gouvernement s'est dit que la réforme en matière de la décentralisation n'était pas possible. Et il n'a pas pris les mesures nécessaires pour pouvoir conduire cette réforme. Parce que je suis étonné que même par rapport au référentiel en termes de législation, on en soit toujours resté à ce qui se faisait à l'époque. Aujourd'hui, vous avez la loi sur la libre administration des provinces qui a été promulguée par le chef de l'État depuis le 31 juillet 2008. Si vous prenez cette loi, je parle de mémoire, je crois que c'est aux articles 43 jusqu'aux articles 59, vous avez la répartition, si vous voulez, des taxes déjà plus ou moins indiquées entre ce qui doit relever des taxes spécifiques à chaque province et les taxes d'intérêt commun qui sont des taxes édictées par le pouvoir central et on indique bien les matières et qui sont prélevées pour l'intérêt des provinces. Et il y a dans la Constitution, quand vous regardez la Constitution, notamment à l'article 204.16, qui dispose clairement qu'il y a des impôts, des taxes, les droits provinciaux et locaux, notamment l'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif et l'impôt sur les véhicules automoteurs. Et vous regardez sur des choses aussi claires, qui ne demandent pas en réalité qu'il y ait d'autres mécanismes légaux ou législatifs réglementaires pour être mis en œuvre. Même sur ces questions-là, le gouvernement a continué à fonctionner comme dans l'ancien système. Donc le problème que nous avons ici, c'est un manque de volonté de la part du gouvernement qui n'a pas cru dans la décentralisation et qui n'a pas voulu des provinces qui soient fortes. Et ce manque de volonté a été renforcé par le fait que toutes les provinces sont contrôlées par la majorité. Et donc, les parlements provinciaux, les autorités provinciales qui devaient être là pour défendre les intérêts des provinces sont devenus les complices des violations de la loi et de la Constitution. En plus, la mesure qui est prise par le gouvernement est en soi illégale, est une violation de la Constitution. Il est dit clairement dans la Constitution que lorsqu'il y a un conflit sur une matière en termes de compétences entre le pouvoir central et le pouvoir provincial, on saisit la Cour suprême, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, et en l'occurrence, c'est la Cour suprême qui fait office. Et vous voyez bien qu'en cette matière, le gouvernement se comporte comme à l'époque du parti État. Il tranche dans le secret de son cabinet, il dit, il le suspend. Cette mesure est en soi anticonstitutionnelle, elle est illégale. Bon, maintenant, on veut dire, il y a un problème politique, comment on le résout? Comment est-ce que, en fait, aujourd'hui, on peut faire en sorte que les taxes qui sont prélevées ne viennent pas surcharger déjà les charges trop importantes pour les opérateurs économiques, et puis de l'autre côté, permettre aux provinces de fonctionner. Je dirais là aussi, si le gouvernement faisait correctement son travail, parce que ce gouvernement est une véritable faillite, si ce gouvernement faisait correctement son véritable travail, les instruments légaux déjà en vigueur permettent de rencontrer ce problème. Comment ? En fait, le gouvernement ne doit pas amener son budget au niveau du Parlement sans qu'il ait pu intégrer en amont les budgets des provinces. Et en principe, les budgets des provinces pour ce qui est des taxes, des impôts qui sont prélevés à l'initiative des provinces, doivent déjà avoir été intégrés à ce niveau-là. Et donc au niveau d'une des conférences budgétaires avec les provinces, le gouvernement devrait en principe avoir maîtrisé dans le cadre du budget qu'il amène au Parlement. L'ensemble des taxes qui seront prélevées par la province pour l'année fiscale à venir. Or, qu'est-ce que nous remarquons? Le gouvernement amène son budget au niveau du Parlement alors qu'un certain nombre d'assemblées n'ont même pas bouclé leur budget. Donc, le gouvernement amène des éléments fictifs. Et de l'autre côté, quand vous regardez la manière dont les crédits de l'État donc sont exécutés dans le cadre du budget qui sont en définitive votés, j'ai suivi un des intervenants du Bas-Congo le dire tout à l'heure, on ne respecte pas les enveloppes, il y a des dépassements. La Cour de compte a fait des rapports qui sont excellents là-dessus, sur le budget, les questions 2007, 2008, 2009, et qui montre que manifestement le gouvernement ne respecte pas la loi budgétaire en termes d'allocation de ressources à ces provinces. Et donc, lorsqu'on en arrive dans une telle anarchie organisée par le gouvernement central, il est normal qu'à un moment donné, on arrive à une situation de faillite où les opérateurs économiques se plaignent et où les provinces également se plaignent. Mais il faut noter, moi j'ai été au Kassai récemment, j'ai vu que notamment à Luisa, il y a des taxes qui sont prélevées à l'initiative du gouvernement central. On n'est plus dans le gouvernement provincial parce qu'on a l'impression que la surtaxation vient essentiellement du gouvernement, gouvernement provincial. Mais le gouvernement central lui-même se taxe. Je vous donne un exemple. Les paysans de Luisa qui quittent Luisa pour aller chercher du carburant à pied du côté de Dilolo, quand ils amènent ce carburant pour aller le revendre, soit à Luisa ou l'amener un peu plus loin vers Dibaya ou Kazumba, ben, ces gens-là, on les taxe sur le carburant, on dit que c'est une taxe à l'initiative des hydrocarbures. Or, en réalité, il n'y a pas de taxe sur la structure du prix des produits pétroliers qui doit pouvoir être imposée en dehors de ce que les gens payent au niveau de la structure. Donc vous voyez, cette anarchie-là, elle existe y compris sur la part des taxes qui sont prises à l'initiative des différentes
administrations. Monsieur Delis, c'est ça eu égard à tout cela, parce que cette matière touche sensiblement la décentralisation, la dernière question pour vous libérer. Est-ce qu'on peut dire que dans ces conditions et dans la situation à venir, la décentralisation aura du mal à s'imposer, à être perçue comme le moteur de développement, comme cela a été présenté?
Non, l'incompétence d'un gouvernement ou la faillite d'un gouvernement ne doit pas condamner une réforme qui est nécessaire pour le développement de ce pays. Je pense un des auditeurs l'a dit tout à l'heure, il faut que la population, au moment des élections qui viennent, elle puisse pouvoir juger si cette majorité a été capable d'impulser une véritable réforme, qui est une réforme voulue par tout le monde. C'est pourquoi nous avons adopté cette constitution quasiment à l'unanimité. Ce n'est pas parce que cette majorité est incapable et ce gouvernement a été incapable de mettre en œuvre cette réforme qu'il faut condamner la réforme. Je pense que ce qu'il faut changer, ce n'est pas la réforme. Il faut continuer cette réforme. Ce qu'il faut changer, c'est au niveau de l'impulsion de la politique gouvernementale, c'est au niveau de la majorité, et c'est ce que nous espérons pour les prochaines élections, pour mettre en œuvre effectivement une décentralisation qui tienne la route.
Merci, Monsieur Delis Sanga. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes député national. Merci de nous avoir accordé de votre temps dans cette partie de l'émission. Vous êtes ici à Kinshasa. Nous allons à Lubumbashi où se trouve Didier. Didier, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez suivi les cours de l'émission, les inquiétudes des uns et des autres. Le grand problème, comme on l'a dit, en grosso modo, si on peut utiliser ainsi le terme, réside au niveau de la volonté politique des uns et des autres d'appliquer les textes déjà qui existent clairement et qui peuvent permettre à ce que la décentralisation ne puisse pas être perçue par la population risque de voir comme si la décentralisation était impossible, il va connaître un blocage. Et vous, à votre niveau, quelles sont les pistes de solutions qu'on peut dégager et dans cette matière, et surtout comme elle touche les opérateurs économiques et la vie des plus les consommateurs.
En fait, merci M. Moralis pour m'avoir accordé. Vous avez raison. En fait, il y a un problème au niveau des provinciales, ou en fait, central plutôt, les gouvernements central. Les opérateurs économiques ont totalement raison. Parce que, en fait, les lois doivent être élaborées par des institutions bien spécialisées. L'Assemblée nationale doit élaborer des lois qui doivent régir les institutions, aussi le peuple et les institutions qui existent. Aussi, il y a un problème.
Voilà, apparemment la ligne de Didier Lumbashi pose problème. Hein, le temps peut-être qu'il puisse être récupéré. Apparemment, il y a un problème de ligne avec Lumbashi, mais on reste ici à Kinshasa avec Papi. Vous êtes en ligne. Bonjour, Papi.
Bonjour, la radio Papi.
Nous sommes en train de débattre autour de l'inquiétude des opérateurs économiques et sur les taxes, hein, mais là, nous voulons plus, comme on tend vers la dernière partie de l'émission, dégager les pistes de solutions pour aider les opérateurs économiques à ne pas percevoir les taxes qu'ils payent comme un corvée, et d'un côté aussi permettre aux entités, aux provinces de pouvoir fonctionner parce qu'elles ont besoin de mobiliser les ressources locales pour tenir. Hein, et dans cette confusion, dans ces inquiétudes, on risque de connaître une paralysie, que ce soit du côté des opérateurs économiques ou bien du côté des institutions provinciales. Et papy, vous, quelle est votre piste et des solutions que vous dégagez au cours de cette émission?
Bon, pour les quatre, moi je suis du Lonely Crowd, je vous informe que je suis aussi victime de... moi j'appelle ça tracasserie. L'État veut donner toute une charge à sa population, ce qui n'est pas normal. Comme par exemple, je viens d'une mission de service à l'Équateur, de Ménage, d'Abilité, d'Ongo, et sur les taxes, par exemple, la RVA, qui fait payer le GOPAS, nous qui appelons l'avion de la MONUSCO, nous sommes censés de payer, au lieu de 10 dollars, nous payons 33 dollars. Ça, nous sommes humanitaires. Je pense que je suis rentré de faire une parenthèse, mais ce n'est peut-être pas la base de notre discussion, mais j'ai un pingle parce que ça va de pair avec la tracasserie sur les taxes. Donc, l'État congolais doit nécessairement voir comment accroître les secteurs économiques, le fait de beaucoup taxer, le fait de percevoir des taxes sans pour autant à tenir compte de la condition de vie de la pauvre population, ça met vraiment en dépendance, ou je veux dire que ça nuit la population. Donc l'État congolais doit revoir encore sa manière de travailler, surtout sur la perception des taxes. Donc il y a beaucoup de tracasseries et la population est sous-informée sur toutes les taxes qu'ils doivent payer. Surtout à l'intérieur, les gens sont surpris de voir que aujourd'hui, on nous fait payer des taxes, mais ils ne sont pas informés. Il faut avoir une manière ou soit un mécanisme de vulgariser le paiement des taxes. Il faut que je suis informé. Mais sinon, je n'apprécie pas l'initiative de l'État pour en fait fracasser la population. C'est tout à fait normal pour construire le pays, mais si on paye les taxes, il n'y a pas une réalisation concrète que nous voyons. Si ce n'est que le temps chantier que nous sommes en train de voir à travers la ville de Kinshasa, qui n'est rien d'autre qui n'est représente que la RDC, et à l'intérieur, il n'y a en tout cas rien comme infrastructure, il n'y a rien comme quoi que je vais citer. Donc ça nous met en tout cas dans un souci énorme.
Merci, papy. Vous êtes à Kinshasa, nous allons à Goma, au nord Kivu. Jacques, on termine avec vous cette série. C'est Jacques, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Moi, c'est Jacques Mondier, je suis en Nord Kivu, plus précisément à Goma.
Voilà, vous êtes à Goma, nous parlons des taxes, de ce qu'il faut faire hein, pour aider les opérateurs économiques à fonctionner sans difficulté et aussi comment remplir les obligations vis-à-vis de l'État pour permettre aux institutions provinciales de fonctionner. Vous êtes au Nord Kivu, on vous écoute.
Et d'après moi, j'allais vous dire qu'il faut que nos autorités soient sérieuses. Être sérieux pourquoi? Ils sont en train de peser sur les opérateurs économiques. Or, au fur et à mesure qu'ils se laissent peser sur les opérateurs économiques, c'est la population qui sont en train de souffrir. Le problème, il c'est quoi? Il faut qu'ils s'organisent pour gérer les taux qu'ils reçoivent. Et non multiplier les taxes du jour au lendemain ou chercher à s'imposer n'importe quand et n'importe comment. Jusque-là, je vais donner l'exemple de ma province et surtout de ma ville. À Goma, nous ne savons pas au juste quelle taxe il faut payer et quelle autre il ne faut pas. Chaque matin, il y a tel ou tel autre service qui se réveille devant les forces des opérateurs économiques et exige des taxes par-ci par-là. Comment voulez-vous que tel opérateur économique puisse baisser peut-être le prix de son marchandise pendant que les taxes deviennent plus supérieures par rapport à l'achat à l'origine de ce produit?
Voilà, merci Jacques. Votre inquiétude est claire. Il ne faudrait pas multiplier les taxes, mais vous pensez aussi qu'il faut une gestion équitable, une gestion transparente de ce qui est déjà perçu. Nous allons, après quelques secondes, remettre la parole à notre invité pour aborder presque la dernière partie de cette émission.
Vous êtes au centre de toutes les questions. Ils sont la solution possible à vos problèmes. Radio Okapi réfléchit avec vous sur la solution. En direct, avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs. Parlez, nous transmettons, proposez, nous discutons. Parole aux auditeurs, le lundi à vendredi 11h et mercredi à 10h, on de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Okapi.
Professeur Mbobo, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, oui.
Donc, permettez que nous puissions lire les deux messages des auditeurs. Vous allez réagir à ce message aussi au propos du député Sessanga, de Papi, de Jacques et aussi de Lubumbashi. C'est Jérôme qui nous écrit et vient, il dit ceci, en Autriche, il dit ceci, c'est parfois étonnant de constater que nous avons des textes légaux chez nous qui doivent en principe régir l'ensemble du secteur public au niveau national comme provincial. Seulement, il s'est fait constater un manque de constance au niveau de l'interprétation et des applications des textes légaux. Aussi, la loi sur la décentralisation qui devait faciliter les choses dans ce secteur tarde pour être totalement appliquée. Ainsi, selon moi, ce dysfonctionnement résulte d'une certaine incohérence qui existe entre les différentes compétences. C'est une matière aussi délicate et ainsi, il faut que nos juristes aident nos dirigeants en place afin que tous ces dysfonctionnements ne puissent plus exister. L'on devrait vraiment éviter d'interpréter et d'appliquer les textes légaux à base de sauts d'humeur. Ou bien, nous voulons un régime seulement centraliste ou nous ne le voulons pas. Et c'est pourquoi, tant que certaines lois sur la vraie décentralisation ne sont pas correctement bien appliquées au niveau de l'administration étatique dans l'ensemble, on ira des conflits en conflit au niveau des différentes compétences au niveau national, tout comme au niveau provincial. Et enfin, on nous écrit des Kalanga, c'est Simba Eric qui dit ceci, lui s'inscrit en faux sur la déclaration de la FEC accusant la province du Kassai occidental. Pour lui, il pense que toutes les taxes est décidées en fait au niveau du Kassai occidental, les édits ont respecté les articles 203 et 204 de la Constitution pour le Kassai occidental. Il ne pense pas que les taxes sont allées au-delà de ce que la loi recommande. Vous avez suivi les uns et les autres professeurs parce que c'est on t'en déjà vers la fin de l'émission carrément et par rapport au député d'Élise Sanga, lui il pense que le problème c'est qu'on risque de percevoir comme si le processus de la décentralisation, la réforme elle-même a des failles et pourtant le problème ce n'est pas à ce niveau-là mais c'est au niveau des animateurs qui doivent en principe faire un effort, aller au-delà pour appliquer tous ces textes comme on l'a dit depuis le début et éviter qu'on ait un blocage. Et aussi la dernière question pour vous permettre d'intervenir et de conclure, c'est par rapport maintenant à l'attitude que doivent avoir et les opérateurs économiques sur terrain et les institutions provinciales par rapport à la mesure prise par le gouvernement central sur la suspension des différents édits. On vous écoute.
Voilà, merci beaucoup. Je pense personnellement qu'il y a effectivement aussi une question de gestion qui se pose au niveau des provinces, comme au niveau de toutes les entités locales. Mm-hmm. Ça, c'est une question qu'il faut régler au niveau de chaque entité. Mais personnellement, je pense que toutes les provinces essayent de montrer que quelque chose se passe à leur niveau. Parce qu'il y a des provinces qui connaissent quand même une amélioration. J'ai visité les Katanga. Il y a un mois, j'ai trouvé quand même que là-bas, il y a des choses qui se font. Et la population semble être satisfaite quand même du travail qui se fait au niveau provincial. Mais j'étais aussi au nord Kivu, j'étais au sud Kivu, j'étais à la province orientale, j'étais dans les Kassai. Et donc, j'ai vu que les attitudes ne sont pas les mêmes. Donc, ces autres provinces ont des difficultés pour poser des actes, améliorer quelque chose au niveau des infrastructures routières, et ainsi de suite. Et ça frappe la population. Ce qui fait que toutes les provinces sont en train de chercher quand même à recouvrer les moyens pour pouvoir poser des gestes avant les élections pour que les citoyens voient que quelque chose est fait. Mais donc ça, c'est difficile que le pouvoir central, n'est-ce pas, empêche les provinces de travailler. Mais donc le pouvoir central doit aider que les choses marchent bien dans l'ensemble du territoire. Donc les questions qui sont soulevées par les auditeurs sont des questions fondamentales. Mais chaque animateur peut se mettre en tête que c'est l'intérêt général qui compte, à mon avis, ça peut déjà résoudre pas mal de choses au lieu de regarder toujours son institution et les intérêts limités à son institution. Parce que dans une situation comme la nôtre, où nous avons le pouvoir provincial à côté du pouvoir central, n'est-ce pas, qui sont voulus deux opérateurs qui impulsent le développement du pays. À mon avis, il est important que les autorités puissent se comprendre, se faciliter la tâche et donner un bon témoignage aux citoyens, parce que les citoyens comptent sur les réponses qu'on va apporter à leurs problèmes de tous les jours. Et ces problèmes de tous les jours seront résolus s'il y a des moyens financiers. Et donc, les problèmes que les opérateurs économiques soulèvent, c'est un problème important, mais je ne pense pas que ces problèmes peuvent être résolus de manière unilatérale par le pouvoir central. Il est important que le pouvoir central, n'est-ce pas, convoque cette conférence des gouverneurs pour que la question soit discutée et qu'on essaie de voir quelles sont les solutions qui puissent satisfaire et les opérateurs économiques et nous les citoyens, parce que nous citoyens, lorsque les opérateurs économiques sont mécontents, ils vont simplement hausser les prix. Et quand les prix sont haussés, donc c'est tout le monde qui se plaint, hein, donc le coût de vie augmente. Donc c'est dans ce sens-là que moi je vois les choses, mais donc je ne vois pas la question simplement en termes de gestion. C'est vrai qu'il y a des problèmes de gestion, et surtout les coûts du personnel politique qui veut toujours avoir plus, et donc qui pèse toujours sur les citoyens en cherchant toujours plus de moyens financiers par les billets des taxes, etc. Ça, c'est aussi un risque qu'il faut contrôler, et donc il faut que le pouvoir central mette les mécanismes de contrôle pour que les provinces n'exagèrent pas, n'abusent pas. Mais tant que il n'y a pas de texte dans la loi sur la nomenclature, il est difficile de reprocher à ces édits, mais soit d'outrepasser leurs limites. Voilà, donc c'est difficile. Donc le pouvoir central a une grande responsabilité pour prendre l'avance, poser des actes qui mettent de l'ordre et que toutes les provinces suivent ces textes-là. Mais si les textes ne sont pas pris, alors vous voyez, chaque province commence quelque chose à la fin, on peut effectivement exagérer. Hein.
Merci,
donc c'était mon point de vue.
Merci. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté de l'invitation dans cette émission. Et nous disons aussi également merci à tous les auditeurs de Radio Capi qui nous ont donné de leur temps. Ça n'est fini avec parole aux auditeurs pour ce jour. C'est à qui nous disons merci pour la réussite de cette émission. Mise en onde par Jean-Noël Mokondo, Nicole Ndiaye à la supervision. Et passez un bon week-end en compagnie de Radio Capi.